L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Hugo Travers, qui est un YouTuber.
Ouais.
On s'est connus donc,
il y a assez longtemps.
Tu avais 15 ans à l'époque.
J'avais 15-16 ans, un truc comme ça.
Ouais. Et aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube qui parle de sujets sérieux, d'information. et c'est hyper intéressant parce que je crois qu'il y a une petite incompréhension, bon, d'abord de manière générale sur la génération Z et sur les adolescents, mais il y a aussi une incompréhension sur l'usage de YouTube par les adolescents. En fait, YouTube joue un rôle prépondérant dans les usages des ados. Et tu me faisais la remarque, d'ailleurs, c'est marrant qu'un média, il y a des médias qui essayent de toucher les jeunes via Facebook et qu'évidemment ça marche pas parce c'est pas qu'ils y sont pas, mais c'est juste qu'ils y passent pas beaucoup de temps en fait.
Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que moi j'ai vu des études l'autre jour qui disaient quels sont les réseaux sociaux où les jeunes sont le plus inscrits.
Ouais.
Et donc oui, il y avait quand même une part assez importante de jeunes inscrits sur YouTube.
Ah, bien sûr, tu peux
être l'inscription sur Facebook, sur Facebook, ouais. Mais entre l'inscription et l'utilisation, il y a une différence.
Mais non, mais tu peux être. En fait, moi ce que j'avais lu comme étude, c'est que Facebook, c'est un truc de vieux, c'est là où il y a ta grand-mère, ton père, ta tante, etc. Ça serait en fait, t'y es parce que ça serait encore plus bizarre de pas y être. Mais en fait,
ouais, c'est clair, totalement. Et même moi, d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, honnêtement, Facebook, j'utilise pour parler à quelques potes et événements, mais autrement, je suis beaucoup plus, le matin, quand je me pose, je regarde YouTube et je suis sur Twitter aussi pas mal encore, mais Instagram, enfin, et je pense que la génération d'en dessous, enfin, moi, j'ai 20 ans, mais la génération qui a, 15 ans, une quinzaine d'années aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui, c'est encore plus le cas, quoi. C'est un truc qui est encore plus renforcé.
Ouais, c'est clair.
Donc voilà quoi.
Et du coup c'est hyper intéressant. C'est quoi ton chemin, toi? Comment t'es passé, comment t'as décidé de lancer un média à 15 ans déjà?
Déjà au début, du coup, j'avais lancé Radio Londres, en vrai, c'était juste un intérêt pour moi, pour le journalisme et pour les médias. Et je voulais juste essayer de faire un truc où des jeunes pouvaient s'exprimer. Et donc, j'avais lancé Radio Londres, où il y a aujourd'hui une centaine de jeunes qui écrivent sur tout un tas de sujets.
Ouais.
Et après, en fait, je suis arrivé en 2015, donc j'avais à peine commencé mes études. Et j'ai un peu découvert moi-même YouTube, en fait. Enfin, moi, j'ai grandi en regardant les vidéos de Norman et Cyprien. C'était vraiment le début de YouTube.
Beaucoup moins sérieux.
Mais beaucoup moins sérieux. Effectivement, on était sur autre chose. Mais genre, et en fait, je suis allé à la Video City. Je sais pas si tu vois le truc, mais c'est une sorte de grande convention où des YouTubeurs, enfin, des abonnés rencontrent des YouTubeurs. Et c'est là vraiment que j'ai réalisé que c'était pas seulement Norman, Cyprien, etc. Moi, honnêtement, avant, je regardais assez peu YouTube.
Ouais.
Mais je réalisais que cette génération, justement, qui a une quinzaine d'années, c'est un truc qui est massif.
Ouais.
C'est un truc qui est massif, avec du coup beaucoup d'humour, encore beaucoup de divertissement, etc. Mmh. Mais de plus en plus, il y a des youtubeurs, en 2015, quand je me suis lancé, il y avait déjà des youtubeurs sur l'histoire, sur la science, sur des trucs comme ça. Et en fait, moi, je suis tombé dessus en me disant, mais c'est tout con, mais il y a très peu de contenu d'actualité qui vise à vraiment expliquer l'actualité pour ces jeunes-là. Et à partir de là, je me suis dit, autant le faire, quoi. YouTube, c'est pas seulement de l'humour, c'est pas seulement tout ça. Il y a aussi un potentiel à faire ce contenu-là. Et il y a un potentiel notamment parce que pour moi, il y a vraiment un effet générationnel, en fait. C'est-à-dire que cette génération, effectivement, qui a 14-15 ans aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne va pas massivement s'intéresser à l'actualité, à la politique, à tout ça.
Non.
Mais.
Enfin, ça dépend. Moi, je trouve qu'ils s'intéressent plus que.
Ils s'intéressent peut-être plus, effectivement, pour en parler. Non, c'est clair. Mais en l'occurrence, de toute façon, d'ici les années qui viennent, ces jeunes-là vont rester sur YouTube, a priori. Ouais. Il y aura peut-être d'autres réseaux sociaux, mais YouTube restera l'un d'entre eux, très clairement. Et sur ces réseaux sociaux-là, bah, il y aura de la politique et il faudra qu'ils s'y intéressent via ce réseau social là, ouais. D'où le fait d'investir massivement YouTube, mais aussi Instagram où je développe des formats. Enfin voilà, ouais. Toutes ces plateformes là qui sont en l'occurrence un peu délaissées par d'autres médias.
Mais
qui
tu
sont
trouves, tu
sur
trouves
Facebook.
Qu'ils sont délaissés parce qu'en fait, moi je trouve que les médias ils essayent parce qu'en fait, mais peut-être, alors c'est peut-être ça le truc, hein, ils essayent pas forcément de la bonne manière. Ouais. C'est-à-dire, c'est moins personnifié, c'est pas le bon ton, ouais. C'est pas les bons formats, etc. Donc ils essayent ouais. d'y être, mais pas de la bonne manière. Mais
en fait, si je prends l'exemple d'Instagram, ouais. Instagram, moi, ce que je fais sur Instagram, c'est que tous les jours, je poste un post avec une sorte de diapo où je mets les 5 actus du jour résumés en 2-3 phrases par actu. Ouais. Avec une image, à la fin, il y a un débat où il y a quasiment 1000 personnes qui commentent tous les jours et qui participent
ça,
au débat.
C'est ouf quand même, t'as eu 1000 commentaires par photo.
Ouais. Enfin, et les gens sont, ouais, pour 30 000 abonnés, ça fait vraiment un taux d'engagement qui est assez dingue. Ouais, qui est assez dingue. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pourquoi est-ce que j'ai lancé ça ? J'ai regardé quasiment tous les médias qui étaient présents sur Instagram. Et quasiment tous, en fait, utilisent Instagram dans cette fonction d'Instagram qui est assez première, qui est de mettre des photos. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils partent du principe que ceux qui suivent Instagram, si jamais tu suis Le Monde sur Instagram, c'est que derrière, tu vas lire Le Monde. Si jamais tu suis, même Elsie, je bosse avec Elsie, mais si tu suis Elsie ouais. sur Instagram, c'est que derrière, tu vas regarder Elsie. Et du coup, en fait, c'est pas du contenu forcément qui vise à informer directement sur Instagram.
Sur ma plateforme,
ouais. C'est du contenu un peu, qui se met à côté d'illustrations, mais qui va vraiment accompagner le site internet ou la chaîne télé. Et donc, à partir de là, moi, je me suis dit, mais c'est tout con, quoi. Je veux dire, autant vraiment produire du contenu pour Instagram, parce que c'est là que sont les jeunes. Et du coup, ça fait que, voilà, j'ai des audiences. Enfin, en termes sur Instagram, sur mon compte, j'ai, 100, 200 fois plus d'abonnés que beaucoup de chaînes télé qui sont sur Instagram. Parce que, justement, j'ai du contenu dédié à Instagram, qui est adapté vraiment, en plus, aux nouvelles fonctionnalités qu'on peut trouver dessus, quoi.
Et en plus, t'as une posture hyper particulière, ce qui fait que, du coup, t'as les honneurs de la ministre de la Culture. c'est assez fou, ouais. parce que, en fait, quand t'as 20 ans,
je pense que je fais
nommé par la ministre de la Culture ou avoir des partenariats ouais. comme ceux que t'as, que ce soit avec le CI ouais. ou autre.
Je pense que c'est intéressant, en fait, parce que j'ai... Alors, déjà, le fait que je parle forcément de sujets d'actualité, de sujets sérieux, fait que c'est plus simple. Mmh. Mais je pense que c'est aussi... j'ai l'impression, assez souvent, parce que des youtubeurs qui ont 200 000 abonnés, sur YouTube aujourd'hui, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, je ne saurais pas en compter, il y en a énormément. Des youtubeuses beauté à 200 000 abonnés, enfin, on en trouve des centaines.
Ah, ouais, bien sûr.
Et pour autant, tous les youtubeurs qui ont 200 000 abonnés n'ont pas autant d'écho sur des ouais. médias plus classiques, n'ont pas tout ça.
En termes de visibilité, ils font pas de conférences. Ouais.
Exactement. Et je pense que c'est moi déjà parce que j'ai un contenu qui est. Je pense que c'est surtout ça en fait. Je suis sur un contenu qui est un contenu d'actualité, qui est un contenu sérieux.
Ouais.
Et déjà, ça, c'est du contenu que ces médias-là traitent aussi, donc il y a forcément une sorte de proximité. Mmh. Et au-delà de ça, c'est du contenu qui leur semble. Comment dire? Qui leur semble important et du coup ils trouvent ça intéressant. Enfin, eux, ils ont souvent en tête que. Enfin, moi, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu des retours de journalistes ou de gens qui me disaient, mais c'est pas très drôle ce que tu fais. Je veux dire, YouTube, faut quand même de l'humour, on parle aux jeunes, etc. Ouais. Et j'ai eu besoin de leur dire, c'est pas parce qu'on parle aux jeunes qu'il y a besoin de faire un truc, avec de l'humour, avec des blagues. Ouais. Et si on prend l'exemple justement de ces influenceurs qui prennent part à des débats publics, si on prend la question des Rohingyas par exemple ouais. en Birmanie, Jérôme Jarre, c'est de base, il fait des blagues, il fait des vines, il fait des trucs
ouais,
humoristiques.
Truc, ouais.
À aucun moment il fait des blagues ou très peu quand il s'agit de parler de ces sujets-là.
Ouais,
et donc voilà, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin. Enfin, moi, je le vois d'ailleurs sur ma chaîne, il y a beaucoup. Les jeunes veulent être pris au sérieux. Enfin, ils veulent pas que. Enfin, quand il s'agit de parler d'actualité, l'idée, c'est pas forcément d'en parler avec humour pour qu'on en parle, quoi. Et après, c'est juste une question, je pense, d'avoir les bons codes et d'être adapté à leur consommation, à leurs usages, quoi. C'est-à-dire c'est surtout ça. Donc, être là où ils sont et.
En fait, le truc, c'est qu'on en parlait tout à l'heure. Tu disais, je veux pas parler au niveau. Enfin, je veux pas parler pour une génération ouais. parce que, je me sens pas.
C'est dur de généraliser.
C'est très compliqué. Ouais. Mais justement, je pense qu'il y a plein de généralités qui sont non mais les jeunes il faut que ça soit marrant pour qu'ils s'intéressent sinon ça ouais. va les ennuyer, il faut que ça soit hyper court, faut que je sais pas, enfin, je les connais pas tous par cœur, les poncifs sur la chaîne, où tu faisais du langage, tu vois, en mode vraiment, je sais pas quoi.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'est pas tant ça. Enfin, toi, ce que tu me dis, il me semble, hein, que, un, faut que ce soit personnifié, c'est-à-dire très personnifié, que ce soit la chaîne de quelqu'un. Et puis, il y a une défiance des médias aussi.
Totalement.
Comme pour Jérôme, il y a une défiance des organisations humanitaires.
Et d'où le fait que moi, j'ai joué, enfin, on parlait au début du média Radio Londres que j'avais lancé à 15 ans.
Ouais.
J'aurais pu lancer une chaîne YouTube Radio Londres.
Ouais.
Mais je me suis dit, même Radio Londres, alors, même jamais c'est pas connu comme étant un grand média qui est proche de politique ou je sais pas quoi, ça reste un nom de média, quoi.
Ouais.
Et le fait de lancer ça sous mon nom, enfin, c'était Hugo Décrypte, mais il y a quand même Hugo dedans.
Hugo,
Le côté personnifié, au-delà de ça, enfin, c'est sans même le jouer ou le surjouer, quoi. Je veux dire, forcément, je j'ai pas de studio de plateau, donc je filme dans ma chambre et j'ai ma caméra et j'allume. Et le fait d'avoir un truc, du coup, aussi personnifié, qu'on voit mes coulisses sur Snapchat, comment est-ce que je prépare mes trucs et tout, ça permet de casser en fait cette défiance que les jeunes peuvent avoir vis-à-vis des médias plus classiques. Et donc pour revenir en fait au fait que faut pas forcément faire de l'humour, moi j'ai l'impression que du coup les jeunes veulent être pris au sérieux, ils veulent aussi être considérés, ils veulent aussi qu'on
leur donne leur avis.
Ouais, voilà, exactement. Mm-hmm. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, un peu sur mes différentes. Donc, sur mes vidéos, il y a toujours des débats où les gens peuvent. Il y a une sorte de sondage, et dans les débats, il y a toujours des centaines de commentaires avec des jeunes qui vont participer avec leurs connaissances, avec leurs trucs, mais au sujet. Sur Instagram, c'est la même chose. Donc, on a tous les jours, il y a plus de 1000 commentaires de participants au débat, des gens qui débattent entre eux, etc. Pareil sur un chatbot que j'ai lancé où les gens peuvent participer à un sondage et tout. Et je pense qu'il y a vraiment une envie et d'être écouté et d'être entendu sur ces sujets-là. Et même Jérôme Jarre en soi, ça montre ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'envie de, nous aussi, on peut agir, nous aussi, on peut faire les choses et on va le faire à notre façon, avec nos codes et avec nos moyens et nos trucs, quoi. Donc, c'est super intéressant, je pense, de voir cette différence avec les...
Et en même temps, est-ce que tu penses que tu as une posture unique sur YouTube ou pas ?
Alors, unique, c'est dur de dire. Je pense que sur ce contenu, en tout cas, avec une approche un peu plus journalistique, enfin, ouais. Je me considère pas journaliste, mais avec cette approche plus
neutre,
d'explication et neutre,
une forme
exactement.
De neutralité.
Avec cette approche-là, ouais, je suis quasiment le seul sur ce créneau-là, notamment parce que les boîtes de prod ou les médias qui essaient de se lancer sur YouTube ont pas mal de difficultés, parce que c'est vraiment des codes à part, parce que il y a l'aspect personnifié encore une fois, et parfois, tout simplement, ils se concentrent pas forcément sur YouTube. Si on prend l'exemple de Brut, Brut et surtout sur Facebook, bon, ça c'est ça on le sait, et leurs formats sont pas forcément adaptés à YouTube, sans compter l'aspect non personnifié. Parce que c'est des vidéos qui durent une minute. Alors déjà sur le format, c'est des trucs où on a du texte, on a du texte qui s'affiche, c'est très Facebook, et c'est pas personnifié. Je dis pas qu'il faut forcément être personnifié pour marcher sur YouTube.
Ouais,
on peut parler, Datagull par exemple, c'est un format. Alors je sais pas, jamais ils arrivent vraiment à toucher les jeunes ou non. Je connais pas leur stade d'audience, mais en tout cas ils marchent sur YouTube et c'est pas personnifié. Donc faut pas forcément être dans un truc personnifié. Et je pense en l'occurrence que ça aide énormément. Et même sur le chatbot, moi le chatbot que je fais où tous les jours, tu peux recevoir un débrief de l'actualité. C'est tout con, mais je reçois des messages sur Twitter d'abonnés au truc qui me disent, enfin c'est des trucs tout con, mais qui me disent voilà, mon seul pote qui m'envoie en fait des messages tous les soirs, c'est Hugo Décrypte, quoi. et c'est là le côté personnifié, il est poussé à fond, parce que j'envoie entre guillemets un message tous les soirs à, je sais pas, à quasiment 20 000 personnes, et du coup il y a un côté personnifié là qui est.
Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a plein de, enfin je fais une aparté sur le chatbot. Moi je suis pas un grand fan des chatbots, mais ça peut être utile de temps en temps. Et c'est marrant comme les agences vendent aux marques des chatbots hyper complexes, alors que toi, à 20 ans, tu l'as fait tout seul, en fait.
Ouais, bon, honnêtement, je l'ai fait avec un pote, on s'est posé dessus. Enfin, littéralement, l'idée s'est faite en 2 semaines. Genre, on a commencé, j'ai eu l'idée il y a peut-être un mois, un peu plus, parce qu'on l'a lancé il y a un mois, il y a peut-être 2 mois. Et en 2-3 semaines, le truc était fait, et on s'est juste dit, viens, on teste, on le fait, quoi. Et ça a été super bien reçu. Aujourd'hui, en un mois, on a plus de 20 000 utilisateurs tous les jours qui lisent nos trucs et qui s'informent grâce à ça, quoi. Et en soi, c'est pas si dur à faire. C'est-à-dire que on a des trucs, nous, on utilise un truc qui s'appelle ChatFuel, qui est un service gratuit qui permet de le faire. On n'a pas toutes les fonctionnalités, mais on a quand même les trucs de base. Et honnêtement, pour ce qu'on veut faire, nous, c'est tranquille, quoi. C'est-à-dire que tous les soirs, on prépare notre truc, on le poste. Et t'as 20 000 personnes qui vont lire, qui vont recevoir leur truc et lire, quoi. Donc, franchement, c'est assez intéressant. Après, les chatbots, c'est compliqué. Moi, je sais que, à titre personnel, moi non plus, je suis pas un grand fan.
Ouais.
Mais je vois que ça plaît à énormément de gens. Peut-être que là aussi, c'est une question de génération, parce que, apparemment, les
après, ça dépend pourquoi aussi. Je pense que tu préfères parler avec quelqu'un, mais si c'est pour avoir des news.
Ouais, autant les avoir.
Le chatbot, ça marche.
C'est clair, c'est clair, totalement.
Et du coup, tu penses que tu utilises un ton particulier, ou par rapport aux médias traditionnels?
Je pense que, Donc on l'a dit, il n'y a pas forcément de ton humoristique. Alors, il y en a un petit peu dans le sens où sur mes montages, de plus en plus, je mets des gifs, je mets des trucs un peu qui... donc ce n'est pas dans mon texte, mais c'est plus dans le texte du montage, entre guillemets, donc sur le montage. Là, j'en mets un peu. Mais autrement, non, c'est juste... Je pense que la différence se joue sur le fait que je pars du principe que la personne qui va lire... Enfin, qui va m'entendre ou me voir, ne sait rien du sujet. Mm-hmm. Que ce soit vrai ou
pas.
Je pars du principe que vraiment, il ne sait absolument rien de ce qu'il va, de ce qu'il va lire. Et c'est même le cas d'ailleurs sur les trucs quotidiens de débrief. On essaie en 2-3 phrases à chaque fois de tout rappeler. Et sur les 2-3 phrases, bah voilà, de rappeler que oui, Édouard Philippe, c'est le Premier ministre. Parce qu'un collégien, bah, il ne sait pas forcément, en tout cas, s'il le sait là, peut-être qu'il aura oublié la semaine d'après. Ouais, ça prend un peu de temps, forcément. Même moi, à 15 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est chaud. Enfin, il y a plein de gens, il y a plein de trucs. Ouais,
tu ne retiens pas tous les noms. Bah, ouais. Même moi, je ne connais pas le nom de tous les ministres.
Bah, ouais. C'est clair, bah, moi non plus. En vrai, moi non plus. Hein. Et puis,
c'est impossible.
Donc voilà, c'est vraiment partir de ça. Et à partir de là, le ton est un peu différent. Et après, il y a des techniques d'écriture, moi, que j'utilise. C'est... En fait, quand on lit mon texte, mon script, ouais. Ça paraît assez. Comment dire? Ça paraît pas du bon français, dans le sens où c'est du français en tout cas qui est très simple, ouais. Des phrases relativement courtes, pas mal de répétitions, mais en fait c'est assumé quoi. C'est-à-dire ouais. Que quand je dis, enfin, on voit souvent, j'utilise les, enfin, si quelqu'un lisait mon article, il disait, enfin, mon script, il pourrait dire, résumer, mais tu dis 10 fois tu dis le nom du mec, 10 fois tu dis son titre, ouais. Mais je dis bah ouais, mais faut que ça, le truc, il rentre à un moment quoi. Et donc à partir de ce moment-là, ouais, j'utilise beaucoup de répétitions et c'est pas forcément un français qui est très bon. Enfin, c'est pas un truc, on lirait pas un article. Je pourrais pas faire des articles parce que c'est vraiment une écriture particulière. Ouais, ouais. Mais sur YouTube, ça marche bien parce que du coup, on répète les mêmes éléments et ça permet de bien les imprimer et de bien les retenir. Quoi.
Donc, et du coup, c'est ce que tu me dis aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes sérieuses qui arrivent sur YouTube.
Totalement.
C'est-à-dire que toi, t'existes évidemment, ouais. mais en fait, il y en a plein d'autres sur l'histoire,
sur la science. Il y a plein de trucs. C'est super intéressant et c'est normal, quoi. C'est l'évolution, une sorte de maturation, on va dire, je pense, de la plateforme et le fait que c'est voilà, c'est ceux qui ont grandi avec YouTube. Alors il y a ma génération, mais il y a aussi la génération d'en dessous, enfin ma petite sœur par exemple qui a 15 ans. Ouais. Bah au fur et à mesure, ils vont être de plus en plus intéressés à des contenus plus sérieux quoi.
Ouais, bien sûr.
Ça, moi je regarde des vidéos de Squeezie et de Norman, donc
ouais, j'ai pas d'abonnement. C'est pas parce que tu écoutes des trucs ça. Moi je voilà. regarde des trucs sérieux et puis je regarde des trucs complètement
exactement.
Débiles,
enfin, exactement.
C'est à n'importe quel âge que tu
exactement.
Fais ça.
Enfin, et du coup faut un peu des deux et je pense que c'est pour ça que ça va se développer au
mais c'est vrai que on a tendance à croire. Je pense qu'effectivement, les jeunes aiment que les trucs débiles, ce qui est débile en soi. Enfin, je veux dire,
totalement. Et je pense que c'est, enfin, encore une fois, que ce soit sur des trucs engagés, comme on disait avec Jérôme Jarre, etc., ou sur des trucs plus d'explications, d'actualité et tout, ça montre qu'il y a vraiment une demande. Enfin, c'est, ouais, pour moi, il y a vraiment une demande. C'est-à-dire que ces jeunes-là passent des heures sur ces plateformes-là, et les médias ne sont pas forcément sur ces plateformes-là. Et même quand elles essaient d'y être, bah, on y revient sur la défiance. Voilà. Ouais. Soit parce que c'est pas les bons formats, soit parce qu'il y a une défiance, vis-à-vis de ces médias-là. Et du coup, à partir de là, il y a un peu de tout à réinventer, quoi. C'est ça qui est vachement excitant, moi, de mon côté, c'est que j'investis massivement sur ces nouvelles plateformes. Et j'essaie de parler de sujets, moi, qui m'intéressent, qui me semblent importants à partager. Et voilà quoi, du coup c'est assez excitant quoi.
Et du coup tu penses qu'il faut descendre en vertical, c'est-à-dire être sur un sujet vraiment spécifique ou tu peux traiter de manière plus large
Je pense qu'on peut enfin moi je traite de tous les sujets quoi. Et d'ailleurs parfois on a un mauvais enfin on imagine mal ce qui peut intéresser les jeunes et moi notamment je traite beaucoup de sujets internationaux et je réalise que ça plaît beaucoup en fait. Parce que mine de rien il y a pas mal de sujets, comment dire, il y a entre guillemets des histoires à raconter partout dans le monde. Quand j'ai fait une vidéo sur ce qui se passait en Corée du Sud il y a un an, sur une présidente manipulée par une sorte de secte, en tout cas ce qui était soupçonné comme étant une secte, etc. C'est des histoires qui ont, mine de rien, qui ont une importance, qui sont extrêmement intéressantes et qui en fait sont intéressantes. Et du coup, un jeune, enfin si on lui explique tout ça, forcément c'est une histoire qui est intéressante. Et à partir de là, ouais, les sujets internationaux pour moi marchent beaucoup. Et après, faut aussi voir que du coup, les priorités en termes d'actualité dépendent de ce que nous on fait quoi. Et quand Jérôme Jarre et les autres influenceurs parlent des Rohingyas, forcément, moi je le vois sur ma chaîne, il y a du coup une demande massive sur la question des Rohingyas, qu'est-ce qui se passe, etc.
Il y a une question que je vais te poser, c'est dans quelle mesure t'intègres, parce que moi, comme on est potes sur Facebook, je le vois, mais tu intègres vachement les auditeurs ou les gens qui regardent.
Ouais, les abonnés.
Les abonnés à tes décisions, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, là, tu voyages énormément, donc c'est peut-être pour ça que tu voyages, parce que ça marche bien à l'international, mais Tu les intègres énormément, c'est très participatif finalement.
Bah oui, totalement. Alors, notamment sur le choix des sujets. Alors, on parlait du fait d'interaction sur les débats et tout. Donc là, c'est vrai qu'ils sont extrêmement impliqués dans tous les débats, dans tous les trucs. Sur le choix des sujets, j'essaie en gros, dès qu'il y a des sujets qui me semblent importants, je vais en parler. Ouais. Mais dès que j'ai un doute sur des sujets, bah, je prends aussi les retours et j'essaie de voir eux ce qui les intéresse et ce sur quoi il faudrait, pourquoi pas, insister quoi. Et ouais, du coup, il y a un peu un mélange des deux. Et même, en fait, bah, cette année, je fais un tour du monde et je fais des reportages pour ma chaîne et aussi pour LCI qui les diffuse par ailleurs sans les changer sur leur chaîne. Et même pour ça, en fait, je vais faire voter ma communauté pour qu'ils décident des deux derniers pays où je vais. Et c'est une façon toute bête, mais finalement, de les impliquer aussi, de leur dire, bah voilà, genre, je fais ça aussi pour vous. Enfin, je fais ça pour vous, d'ailleurs.
Ouais, en fait,
du coup, bah voilà, où est-ce que vous voulez que j'aille faire des reportages? Et ça permet d'avoir des retours.
Et du coup, c'est ça que tu disais quand tu disais, ils ont envie que leur avis soit pris en considération. Quelque part, ça participe, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un impact sur ce que tu fais.
C'est clair, totalement, totalement. Et c'est le cas sur, je pense que c'est le cas sur tout, enfin, pour tous les influenceurs et tous les éléments, quoi. Que ce soit une youtubeuse beauté ou quelqu'un qui parle de politique ou un truc. Il y a toujours ce côté, cette idée d'avoir un feedback et d'avoir une interaction, même si, évidemment, quand on a des millions d'abonnés, cette interaction, elle est un peu plus artificielle ou c'est plus difficile.
Et puis, tu essaies de surprendre aussi.
Bien sûr.
Parce que c'est de te renouveler, de surprendre. C'est clair. C'est ça qui est un peu compliqué, d'ailleurs.
C'est clair. Mais en tout cas, c'est un truc qui est essentiel. Et puis, de toute façon, on est obligé, en fait. Nous, en tant que youtubeurs et tout, c'est pas comme un présentateur télé, il va faire son émission et il aura pas forcément de retour direct.
Ouais, non.
Moi, jamais ma vidéo est ratée ou jamais je fais une erreur ou un truc. Mais les commentaires, je me les prends dans la gueule, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
et donc ça nous force à avoir une sorte de responsabilité par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on fait, etc. Et en même temps, ça nous permet aussi de nous améliorer plus facilement et d'être vraiment en contact permanent et donc de s'améliorer par rapport à ce qui est.
Et t'as réussi à imposer une position neutre en politique, parce qu'en fait, c'est vrai que tous les youtubeurs qui existent, enfin la majorité, on va dire, sont hyper anglais, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite, peu importe. Et toi, t'arrives à avoir une position relativement.
Ouais, honnêtement, ouais. Et j'ai pris ça me faisait beaucoup rire pendant la présidentielle où, en fait, j'avais pas mal de retours. Enfin, dans les commentaires, à l'approche de la présidentielle, il y avait des gens qui postaient des paragraphes, mais même pas des paragraphes, c'était des pavés qui disaient, je pense qu'ils votent à droite parce que je pense qu'ils votent à gauche, je pense qu'ils votent telle ou telle personne. Et je trouvais ça tellement drôle parce qu'en vrai, il y avait tout, quoi. Ça allait vraiment sur tout le paysage politique. Et même, moi, ce qui me fait plaisir, en l'occurrence, c'est que, alors, j'essaie de garder cette neutralité, sauf sur certains sujets, typiquement sur les Rohingyas, où j'ai pas hésité à m'engager. Mais sur des trucs plus nationaux, notamment, en tout cas, j'essaie de garder plus de distance. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, du coup, l'impact est bon. Enfin, c'est-à-dire que, lors de la présidentielle, j'ai fait des reportages dans 3 meetings. J'ai fait meeting de Macron, meeting de Mélenchon, meeting de Marine Le Pen.
Ouais.
J'ai rencontré des abonnés sur les 3 meetings. Wow. Et c'était les mêmes retours. C'est-à-dire que ce soit avec Macron, Mélenchon ou Le Pen, c'était toujours des abonnés qui disaient « C'est trop bien, je m'informe sur l'actualité grâce à toi. » Et voilà. Et honnêtement, ça me fait vachement plaisir. Il y a certaines personnes peut-être qui seraient pas contentes d'avoir, des gens proches de Marine Le Pen qui suivent tes vidéos. Mais moi, honnêtement, ça me fait plaisir parce que j'ai confiance en les sujets que je traite et la façon dont je les traite, dans les faits que je mets, etc. Je sais que c'est des faits qui sont vérifiés et je fais vraiment attention à ça. À partir de là, j'arrive à toucher tout le monde, les bords politiques. c'est pas simple du tout. Ça me fait super plaisir, quoi. C'est vraiment peut-être que le pari, en tout cas sur cet aspect-là, est gagné, quoi. Donc, c'est assez intéressant de voir la grosse diversité sur des gens, vraiment sur tout le paysage politique qui peuvent, les jeunes qui peuvent suivre ma chaîne, quoi.
C'est cool. Et alors, du coup, ce podcast, il s'appelle Vlan.
Ouais.
À qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Je dirais justement à ceux qui veulent parler aux jeunes avec du vieux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'en ai, ça commence à changer On est toujours, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette période où typiquement, si on parle des médias, on va mettre du vieux et on va espérer parler aux jeunes, soit ça va être on va prendre du ton, et ça c'est ce que je déteste le plus, justement, on va prendre du ton forcément humoristique ou un truc genre, en fait ça va être ringard, je pense, ça m'énerve,
c'est quand
quoi.
Tu te forces à être jeune, ça marche pas du tout,
exactement. et je rêve du coup de ce jour où ça commence un peu à changer, mais de ce jour où vraiment ces grands acteurs qui ont honnêtement des moyens, moi je grandis mon truc au fur et à mesure et j'essaie de me développer comme je peux, d'avoir une équipe et tout, mais où ces gens qui ont les moyens vraiment de développer et de parler aux jeunes et d'avoir, enfin c'est nécessaire, quoi. C'est-à-dire que
en fait,
y a vraiment un besoin, quoi.
Moi je crois que, parce que n'importe quelle vue il a été jeune, enfin tu vois, et moi à mon âge, enfin quand j'avais ton âge on disait la même chose des gens qui étaient plus vieux, et donc les gens qui le font aujourd'hui ils ont mon âge et pourtant ils refont, enfin tu vois, ils font les mêmes, ils tombent dans les mêmes travers,
bien sûr.
Et du coup je crois que c'est surtout s'appuyer sur des gens qui sont faire confiance à des gens qui sont dans la génération pour parler à la génération, parce qu'en fait il n'y a pas de solution quand t'es vieux, enfin, et moi j'ai beau tu vois rester connecté etc, je suis un vieux, tu vois, enfin je suis un vieux, c'est tout relatif, mais
c'est dur de rester
c'est impossible.
D'où le fait du coup de faire confiance, je pense, à ces nouveaux acteurs et à se dire bah voilà, c'est des codes nouveaux, c'est des trucs parfois qui perturbent un peu, qui sont un peu bizarres, etc. Mais voilà, faut faire confiance, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, quoi.
Ouais, cool, merci beaucoup.
Merci
d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.